Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. On termine cette semaine notre série d'entretiens enregistrés mi-mars à Tunis, aux deuxièmes assises internationales du journalisme. Au programme de cet événement, des discussions entre journalistes, universitaires ou membres de la société civile sur le journalisme face aux multiples urgences du moment. L'urgence sanitaire, l'urgence climatique ou encore l'urgence de l'investigation. C'est à cette dernière que l'on va s'intéresser aujourd'hui. L'investigation, le travail d'enquête, se fait parfois à plusieurs. Elle se fait même souvent à plusieurs entre journalistes, oserais-je dire. On parle alors de journalisme collaboratif. Comment se fait-il et avec quel impact? J'ai choisi d'en discuter avec le journaliste d'investigation béninois Ignace Sossou. Ignace a passé 6 mois en prison à Cotonou en 2020 et je dois vous raconter pourquoi. En décembre 2019, Ignace Sossou participe à un atelier sur les fausses informations organisé par Canal France International, l'agence de développement des médias financée notamment par le ministère français des Affaires étrangères. Le journaliste béninois relaie alors sur Twitter les propos tenus par un des intervenants, le procureur béninois Mario Metonou. Il écrit par exemple sur le réseau social « Le code du numérique est comme une arme braquée sur la tempe des journalistes ». Fin de citation. Peu après, le procureur estime que ses propos ont été tronqués et sortis de leur contexte. Ignace Sossou se retrouve alors accusé de harcèlement par le biais de moyens de communication électronique, en vertu de ce fameux code du numérique dont je parlais tout à l'heure. Il est condamné à 18 mois de prison ferme, une peine commuée en appel à 6 mois. Ignace Sossou vit maintenant à Ouagadougou. Il est chargé de communication de la CENOSO, la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest. Bonjour Ignace.
Bonjour.
Tu es un journaliste qui a été emprisonné pour avoir fait son travail. Explique-moi comment tu te sens aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, je me sens bien, j'essaie de tourner la page, j'essaie de passer à autre chose. Parce que vous savez, quand vous êtes journaliste, vous allez en prison sans avoir commis un délit. Vous vous sentez certainement mal. Mais bon, après ça, il faut essayer de tourner la page et aller de l'avant.
Quand on est journaliste au Bénin, qu'on est emprisonné en prison, ça se passe comment?
Ça se passe comme dans les autres pays. Ici, dans les autres pays, les journalistes ont un traitement particulier. Mais au Bénin, le journaliste est traité comme tout détenu. Bon, d'abord même, vous savez, normalement, le journaliste ne devait pas être en prison pour avoir fait son travail. Maintenant, si en tant que journaliste, vous vous retrouvez en prison... J'étais pas le seul. Après, moi, il y a plein d'autres journalistes qui sont retrouvés en prison pour avoir fait le travail, malheureusement. Et donc, voilà, vous êtes traité comme tout le monde. Vous vivez comme tous les détenus. À la prison civile de Cotonou, pour donner quelques exemples, les détenus font des corvées. Donc, les matins, vous êtes obligé de faire les corvées comme tout le monde. Vous êtes soumis aux mêmes restrictions que tous les autres détenus. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de... Vous n'êtes pas privilégié, voilà.
Aujourd'hui, tu vis à Ouagadougou, au Burkina Faso. Est-ce pour continuer à faire ton travail que tu es parti là-bas?
Bien sûr, j'ai été recruté à la CENOSO, la cellule Norbert Zongo, pour le journal d'investigation en Afrique de l'Ouest. D'abord, c'est une structure de journal d'investigation. Donc, je me retrouve pleinement dans mon environnement. Et donc, j'ai pris la direction des relations médias et de la communication, mais étroitement, je travaille avec le comité éditorial où on a ce regard, comme on appelle, sur la qualité des enquêtes qui sont éditées. Donc, c'est un travail de journal d'investigation toujours, mais dans un autre contexte.
Alors là, justement, quels sont les sujets sur lesquels tu as pu travailler ces derniers mois?
Alors, il faut dire personnellement que malgré mes responsabilités à la CENOSO, je mène aussi des enquêtes personnellement. Donc, j'ai travaillé sur des sujets que je ne peux malheureusement pas évoquer ici parce que je n'ai pas encore bouclé ces enquêtes. Ces enquêtes sont toujours en cours. Mais au sein de la CENOSO, on travaille sur plusieurs thématiques. On travaille sur la bonne gouvernance, on a travaillé sur le droit des enfants et des femmes. On a travaillé sur des thématiques ayant rapport avec l'environnement et la question sanitaire aussi, parce que, vous savez, on est dans un contexte sanitaire mondial un peu critique. Donc, du coup, on a coordonné une dizaine d'enquêtes sur la question dans 15 pays. Et ça fait partie des responsabilités qui ont été les miennes à mes débuts à la CENOSO.
Tu as utilisé l'expression de journalisme collaboratif. C'est une notion qui est peut-être floue pour nombre d'auditeurs et qui n'est non plus pas évidente pour nombre de journalistes dans la sous-région parce que, eh bien, il n'y a pas souvent pas énormément d'échanges ou d'enquêtes faites en commun. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu en train de changer, ça.
Ouais, évidemment. Aujourd'hui, tout le monde est en train de reconnaître l'intérêt du journalisme collaboratif.
Donc, le fait de travailler à plusieurs.
Ah ouais, de travailler avec plusieurs journalistes sur des thématiques. Moi, je vais vous donner un exemple. En 2018, moi, j'avais fait une enquête sur la fraude douanière au Bénin. Alors, c'est une société qui est basée au Bénin qui commande des produits chimiques en Italie. Et pour faire la commande, la société utilise des traders qui sont basés à Bruxelles. Et des commissions sont versées sur un compte en France. Vous voyez, c'est un sujet qui porte sur le Bénin, mais qui a des connexions en Italie, en Belgique et puis en France. Et donc, à défaut de me déplacer dans ces pays pour pouvoir collecter un certain nombre d'informations, voilà, j'ai fait appel à des collègues journalistes que je connais dans ces pays pour m'aider à avancer sur mon sujet. Donc, le journalisme collaboratif, aujourd'hui, je pense que c'est l'urgence du journalisme de qualité. Et généralement, les vrais sujets d'investigation ont toujours des connexions hors du pays. Vous voyez. Et donc, ça fait que vous avez forcément besoin de quelqu'un. À défaut de vous déplacer pour aller collecter l'information, vous avez besoin de quelqu'un. Et vous savez, quand vous vous déplacez pour aller dans le pays, ce n'est pas toujours évident. Parce que quand vous vous déplacez, par exemple, moi, je ne me déplace pas, je vais en Italie. D'abord, je ne comprends pas, comment dirais-je...
La langue.
La langue, le latin. Donc, du coup, je ne maîtrise pas l'environnement, je ne maîtrise pas les institutions. Voilà. Et donc, du coup, je suis confronté à un certain nombre de restrictions. Alors que si je fais appel à un journaliste italien, ça sera beaucoup plus facile, ça ira beaucoup plus vite. Donc, le journalisme collaboratif, aujourd'hui, comporte beaucoup d'avantages qui permettent aux journalistes d'aller vraiment en profondeur sur ces sujets, de faire un travail de qualité.
On enregistre cet entretien à Tunis, aux Assises internationales du journalisme. Et tu as participé à une table ronde dont l'intitulé était « Quel impact pour le journalisme collaboratif ?» Et tu disais, toi, que déjà, le premier impact est peut-être le plus important, notamment ici, en Afrique, c'était lorsque l'info arrivait sur la place publique.
Ouais, vous savez, l'investigation, c'est ça, en fait. C'est donner une information qui est cachée ou mettre le doigt sur un sujet qui est méconnu du grand public, qui n'est pas, comment on appelle, assez répandu dans l'opinion publique. Et donc, c'est ça, en fait, le travail du journal d'investigation. Et quand vous arrivez à le faire, je pense que le fait de sortir la population de l'ignorance, c'est déjà un grand impact. Parce que, vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire une chose. Le journaliste doit faire son travail, donner l'information aux citoyens, pour que les gens puissent agir maintenant en toute connaissance de cause. L'information a un rôle capital dans la vie du citoyen. Et donc, si on ne sait pas, on agit dans l'ignorance. Et si on le sait, on agit en toute connaissance de cause. Et c'est ça, en fait, la responsabilité du journaliste. Quand, par exemple, une entreprise, je vais dire pharmaceutique, vend, par exemple, des produits périmés, ou bien trafique la date de péremption des produits, enfin, c'est une enquête, c'est des choses qui arrivent et qui sont arrivées, alors quand une entreprise fait ce délit que le journaliste découvre et le met sur la place publique, alors il met les citoyens devant leurs responsabilités. Si un citoyen doit demain à continuer à acheter ce produit, c'est de son droit. Mais il doit savoir qu'il achète des produits dont la date de péremption a été contrefaite. Donc c'est une responsabilité énorme pour le journaliste quand il est en face de quelque chose qui n'est pas normal, de pouvoir le mettre sur la place publique. Maintenant, la responsabilité des pouvoirs publics d'interpeller les mises en cause, d'enclencher une procédure, ne relève plus des compétences du journaliste. Mais le journaliste, son travail s'arrête à sa capacité à pouvoir mettre l'information à la disposition du public.
Ce que tu veux dire, c'est qu'après, le fait qu'il y ait des pouvoirs publics qui prennent des décisions, ça interviendra peut-être que dans un second temps. Tu as utilisé l'expression « les fruits seront peut-être récoltés plus tard ».
Exactement, les fruits seront récoltés plus tard. Mais vous savez, dans le contexte africain, les fruits peuvent ne pas tomber toujours parce que vous avez les hommes d'affaires ou bien souvent les personnes mises en cause ont souvent des liens très étroits avec les pouvoirs publics. Et donc, ça fait que bon, parfois la justice a du mal même à se saisir des affaires. Et donc, parfois, c'est compliqué. Mais la population n'oublie pas, en fait. Vous voyez, les citoyens n'oublient pas. Et oui, les retombées peuvent tomber plus tard. Moi, je me rappelle, j'ai fait une enquête et puis c'est un an plus tard, on m'a poursuivi en justice. Parce que, oui, pendant un mois après ma publication, voilà, ça a toujours des effets sur ce qu'on appelle le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et donc, du coup, les gens estiment que si on ne fait pas payer ce journaliste le tort qu'il nous a causé, on risque de mettre la clé sous la porte. Donc, du coup, voilà, l'effet ne peut pas être immédiat, peut venir plus tard. Donc, c'est aux citoyens de déterminer en fait à quel moment ils vont faire payer ceux qui sont mis en cause dans telle ou telle affaire.
Alors qu'on se parle, le président de la CNESO, Moussa Aksar, est mis en cause dans une affaire qui est symptomatique aussi.
Ouais, c'est une affaire assez scandaleuse parce que d'abord, cette affaire, c'est une enquête que le président Moussa Aksar avait fait dans le cadre de FinCEN Files. Alors FinCEN Files, c'est un projet d'enquête collaborative mené par le Consortium international des journalistes d'investigation en collaboration avec la CNESO et qui a porté sur des fuites de données du Trésor américain, en fait la branche du Trésor américain qui enquête sur les fraudes. Et cette enquête a révélé que les trafiquants d'armes ont pris des marchés de fourniture de matériel militaire au Niger. Et donc, il y a eu de la surfacturation, il y a eu de la corruption, il y a eu des achats de matériel non livrés, il y a eu de livraisons de matériel militaire défectueux, etc. Et donc, l'enquête a révélé tous ces dossiers. Et quelques jours après, ou bien quelques mois après, le président a reçu une convocation. Mais ce qui est quand même bizarre dans cette affaire, avant que le président ne reçoive une convocation, c'est que l'État lui-même a fait l'audit au ministère de la Défense et a découvert les mêmes choses. Alors, le journaliste est poursuivi en justice pour diffamation, parce qu'il a cité le nom d'un proche du chef de l'État, l'ancien chef de l'État. Et il a été condamné en première instance, le procès en appel a été programmé, mais ils l'ont reporté. Mais entre la condamnation en première instance et le procès en appel, il y a eu la procédure judiciaire qui a été enclenchée par l'État nigérien avec le nouveau gouvernement. Mais à la surprise générale, à quelques jours de l'ouverture du procès, l'État se retire, l'État refuse de se constituer en partie civile et opte pour un règlement à l'amiable. Donc c'est quand même assez surprenant que des faits qui sont dénoncés par un journaliste, l'État même détient des éléments de preuve et connaît les mises en cause, parce que les mises en cause sont des personnes qui sont très proches des gouvernants. Mais que l'État se désiste à la dernière minute dans ce procès, ça pose beaucoup de problèmes. Enfin, on se pose beaucoup de questions sur l'indépendance de nos systèmes judiciaires.
Le fait d'être un journaliste, et encore plus un journaliste d'investigation, c'est un engagement de chaque instant, de tous les jours. Dans une interview au journal français Le Monde en novembre 2020, tu disais « Je n'ai pas peur, je ne vais pas me taire, les pressions et les intimidations font partie des risques du métier. » Tu es toujours dans ce même état d'esprit ?
Évidemment, vous savez, moi j'ai souvent l'habitude de donner l'exemple d'un pilote. Vous savez, quand vous êtes pilote et que vous faites un crash, la probabilité que vous survivez est quasi nulle. Mais ça n'empêche pas les gens d'aller toujours à l'école de pilotage, d'apprendre à conduire un avion. Et c'est ça, en fait, c'est à ça que je compare un peu le travail du journal d'investigation. Malgré les risques, on ne doit pas se résigner. Malgré les risques, on doit pouvoir faire notre travail parce que, vous savez, on a un rôle important. Je ne parle pas forcément du journal d'investigation, mais le journaliste, de façon générale, a un rôle important dans la société. Et donc, quelles que soient les contraintes auxquelles il est soumis, il doit pouvoir faire son travail. Et nous sommes dans un système où nous sommes interdépendants. Chacun doit pouvoir bien faire son travail pour que la société puisse mieux se porter. Et donc, du coup, il est important pour le journaliste de faire son travail, quelles que soient les entraves qui se dressent devant lui. Et moi, je le dis clairement, les menaces, les intimidations, la prison, et même parfois l'assassinat, ça fait partie des risques du métier, des réalités auxquelles le journaliste doit se préparer, parce que ça peut arriver. Vous savez, on a plein de confrères qui ont laissé leur vie en faisant leur travail. Et donc, voilà, il faut prendre conscience de tout ça. Et se donner quoi. Le journalisme, c'est après tout un engagement. Et cet engagement, rien ne doit l'arrêter.
Vous écoutez l'atelier des médias de RFI. Je reçois le journaliste d'investigation béninois, Ignace Sossou. On l'a dit tout à l'heure, tu travailles maintenant depuis Ouagadougou, mais est-ce que tu continues encore à travailler sur le Bénin ?
Bien sûr, je travaille sur le Bénin, mais beaucoup plus en tant que consultant conseil. Parce que actuellement, je travaille à beaucoup de médias, beaucoup plus dans la stratégie éditoriale. Donc, il y a un média au Nord Bénin avec lequel je travaille en tant que consultant média. On travaille sur le développement de médias, on travaille sur la stratégie éditoriale et on travaille aussi sur le contenu, les types de contenu qu'il faut mettre. Et donc, parfois, quand je suis à Cotonou, je fais un tour là-bas pour former les jeunes journalistes, les stagiaires qu'ils ont recrutés sur les nouvelles tendances du métier. Vous savez, aujourd'hui, en termes de journalisme multimédia, il y a beaucoup d'outils qui se développent. Donc voilà, il faut toujours partager ces outils avec des jeunes pour qu'ils puissent être au top dans la production du contenu. et aussi attirer leur attention sur un certain nombre de principes du journalisme web. Parce que moi, je suis un peu produit du journalisme web. Je n'ai pas fait la radio, je n'ai pas fait la télé, mais j'ai commencé avec la presse numérique directement. Donc, du coup, ça fait que voilà, il y a ces réflexes qu'il faut partager avec les stagiaires pour améliorer la qualité du contenu sur ces médias.
Donc, l'évolution maintenant de ton métier, toi aussi, c'est de devenir un passeur, de transmettre en fait.
Oui, il faut forcément transmettre, mais avant de transmettre, moi aussi j'ai beaucoup de choses encore à prouver parce que je suis encore jeune. Et c'est vrai que de plus en plus je suis sollicité et pour donner des formations, animer des conférences, parler aux jeunes. Mais je pense que, peut-être c'est la force des choses, hein. Mais je veux d'abord pouvoir faire moi-même un chemin avant de pouvoir vraiment me mettre dans la peau de quelqu'un qui doit transmettre le savoir. Puisque moi aussi, ça, je ne le cache pas, je continue toujours d'apprendre auprès des aînés, notamment Moussa Kassa, notamment Joseph Pezzo, c'est un doyen qui est au Bénin. Donc voilà, c'est des personnes qui m'ont toujours motivé, donné des orientations. Donc du coup, c'est des personnes auprès desquelles j'apprends toujours des choses. Et donc, même si je suis appelé à transmettre aussi, voilà, je n'hésite pas à le faire.
Et s'il y a des auditeurs de RFI qui nous écoutent là depuis le Bénin, et peut-être des jeunes qui ont envie de faire du journalisme, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ?
J'ai envie de leur dire tout simplement de faire leur travail comme ils le sentent, tout en restant droit dans leur bord, tout en restant professionnel. Vous savez, moi, je n'aime pas me mettre dans la position de quelqu'un qui donne des leçons, en fait. Parce que je me dis, si on est journaliste, forcément, on a un minimum sur les principes déontologiques. Donc, un journaliste, c'est d'abord quelqu'un qui se respecte, qui promeut un certain nombre de valeurs. Hein, la valeur de non-discrimination, d'égalité, de transparence. Voilà, donc, le journaliste doit pouvoir avoir un certain nombre de principes de valeurs. Et si vous avez ces principes et que vous fonctionnez suivant ces principes, vous ne devrez pas normalement craindre quelqu'un ou bien craindre quelque chose. C'est vrai que nous sommes dans un contexte africain un peu difficile où la question du suivi du journalisme se pose beaucoup plus. Le journaliste doit pouvoir vivre de son métier et en Afrique, ce n'est pas toujours évident. Donc du coup, ça fait que parfois les journalistes se prostituent. Bon, quand je dis, excusez-moi, le thème c'est un peu fort, mais j'ai envie de dire ça comme ça parce que c'est la réalité. Les journalistes sont obligés de se prostituer pour pouvoir avoir le pain. Et donc du coup, quand c'est comme ça, on ne fait plus forcément du journalisme. On est beaucoup plus dans une posture de propagandiste, on est beaucoup plus dans une posture de communicateur. On ne produit plus de l'information, on devient beaucoup plus un journaliste d'opinion. Et quand c'est comme ça, ça pose un gros problème. Donc le conseil que moi j'ai envie de donner aux jeunes journalistes qui m'écoutent, c'est de pouvoir prendre conscience en fait de leur rôle, de leur place dans la société. Parce que c'est parfois le problème est là quoi. Le journaliste ne sait pas qu'il a une place importante dans la société, qu'il joue un rôle important dans la suivi des nations. Donc il faut d'abord prendre conscience de ça. Et après maintenant, essayer de marcher selon les principes déontologiques. Voilà, on ne va pas écrire un article pour insulter quelqu'un, non, pas du tout. Mais quand quelqu'un viole une loi, on doit pouvoir avoir le courage de le dire, même si le chef de l'État. C'est ça, en fait, le principe. Si quelqu'un détourne de l'argent public, on a les preuves qu'il a détourné de l'argent public, on doit pouvoir le dire, même si c'est un chef d'État, même si c'est... Voilà, c'est ça, en fait, le problème. Donc, ne pas flancher devant quelqu'un parce que, bon, voilà, c'est le fils du chef de l'État, c'est un ministre tout-puissant, etc., etc. Il y a des principes qu'il faut respecter. Il y a des normes déontologiques qu'il faut respecter. Maintenant, une fois toutes ces choses-là sont respectées, il n'y a plus personne à... En fait, il n'y a plus rien en face, quoi. Donc, il faut aller de l'avant, tout simplement.
En t'écoutant, on se prend à rêver aussi d'un grand média panafricain qui publierait des enquêtes sur plusieurs pays et qui ferait autorité. Est-ce que ça aussi, c'est un objectif qu'il faut essayer de se donner lorsqu'on est un jeune journaliste africain ?
Oui, absolument, parce que, vous savez, souvent dans nos pays... on a des journalistes forts, mais pas des médias assez forts. Donc, quand celui qui est le tout-puissant du média disparaît, le média aussi disparaît. C'est dommage. Alors qu'on a vu dans d'autres pays hein, des exemples où voilà, celui qui a fondé le média n'est plus là, mais le média a perduré dans le temps. Alors, donc, forcément, il faut tendre vers ce modèle. Parce que si le citoyen n'arrive pas à s'identifier à un média, ça pose un problème. Si les médias naissent aujourd'hui, disparaissent demain... Et voilà, ça crée une certaine incertitude dans l'esprit des citoyens. Et ça pose un problème. Si vous n'êtes pas dans vos États-Unis, il y a des médias qui existent depuis plus de 50 ans, voilà. Et ça reste là, ça existe toujours, même si quand ceux qui ont créé ces médias-là ne sont plus là. Ces médias sont toujours là, forts, et ont un rôle important sur qu'on appelle un impact important sur la gouvernance de leur pays. Donc du coup, il faut qu'on réfléchisse aussi à ces modèles. Avec quelques collègues journalistes béninois, on a un projet de laboratoire de journalisme qui s'appelle Ecolab. Bon, Eco qui signifie en langue locale Yoruba, qui signifie savoir. Et donc, l'objectif, en fait, c'est de faire du journalisme, de faire de la formation. On forme les journalistes sur les nouvelles tendances du journalisme d'investigation. Et en fait, de l'éducation aux médias, parce que ça nous manque surtout en Afrique. Et comment on explique notre métier aux jeunes et aux adolescents? Comment on fait des acteurs de la bonne gouvernance? Parce que vous savez, quand vous êtes un média, vous donnez la bonne information et que vous n'avez pas en face quelqu'un, le récepteur n'est pas fiable. Donc, du coup, voilà, vous prêchez dans le désert. Donc, comment aujourd'hui on essaie de préparer, en fait, la nouvelle génération à être de vrais produits, de vrais acteurs des médias? Donc, on fait de l'éducation média et après, maintenant, on va éditer des enquêtes avec des confrères qui ont besoin peut-être de mentors, de coachs, voilà, quand ils sont sur des enquêtes. Donc, ce projet, on l'a lancé. Depuis juin 2021, on a eu le financement de l'ambassade des États-Unis près du Bénin, qui nous a donné un financement pour faire la phase pilote. Donc, actuellement, on a lancé les appels à candidature pour former un certain nombre de journalistes. On a enclenché la démarche d'éducation aux médias dans un certain nombre de collèges et lycées. Et à long terme, bon, c'est vrai, ça ne sera pas un média, mais ça sera quand même une structure qui sera... Enfin, nous, on le considère comme un laboratoire de journalisme de qualité en Afrique de l'Ouest.
L'idée, c'est que les journalistes et le public aussi ont chacun un rôle à jouer pour la bonne information.
Absolument. Vous savez, plus le public est exigeant, plus le journaliste fait un travail de qualité. Voyez, et donc, c'est ça. On tend vers ce modèle. On ambitionne aller vers ce modèle. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup plus à cœur l'éducation aux médias. Et après, quand vous avez un public qui est réceptif, il faut maintenant donner du contenu de qualité. Donc, il faut pouvoir former les gens, parce que plus les gens sont formés sur des thématiques, plus ils sont sensibles, ils sont beaucoup plus enclins à proposer des sujets sur ces thématiques. Quand vous formez des journalistes sur la question sanitaire, ils proposent des sujets sur la question sanitaire. Quand vous formez des journalistes sur l'environnement, ils proposent des sujets sur l'environnement. Donc, c'est ça, en fait, le principe. Et on pense qu'on va y arriver.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Ignace Sossou.
Merci beaucoup.
C'était Ignace Sossou, journaliste d'investigation béninois, qui est aussi chargé de communication de la CENOZO, la cellule Norbert Zongo pour le journalisme en Afrique de l'Ouest. Cet entretien est disponible en version longue sur le podcast de l'Atelier des médias.
RFI.
Comme chaque semaine, on termine avec Monde Blog Audio qui fait entendre les blogueuses et blogueurs francophones de RFI. Direction le Tchad, où plus de la moitié de la population est de confession musulmane. Le ramadan y est très suivi. À N'Djamena, il transforme le quotidien des habitants et l'atmosphère de la ville. C'est ce que nous explique le Monde Blogueur Anadjib Ramadan.
Bienvenue à N'Djamena, capitale de la République du Tchad. Au mois d'avril et mai, la température avoisine les 40 degrés. Malgré cette température caniculaire, la vie suit son cours en N'Djamena. Chaque jour, les véhicules et motos défilent à toute allure sur le bitume chaud et poussiéreux. Les vendeurs ambulants, les yeux plissés et les bras chargés de marchandises, se faufilent tant bien que mal dans les rues étroites et bondées des marchés de la ville. Impossible d'avancer rapidement, il y a toujours du monde. Ailleurs, devant les maisons des quartiers résidentiels, les jeunes allongés sur des nattes s'entassent sous l'ombre des arbres. Ils s'éventent en attendant de pouvoir boire un almi-abreu bien frais ou un thé sucré bien chaud. En ce moment, c'est la période du mois sacré de Ramadan, un mois saint et béni pour le repentir, la charité et la spiritualité. Pendant le Ramadan, on doit arrêter de manger et de boire avant l'appel à la prière de l'aube et ce, jusqu'au soir, lors de l'appel à la prière d'Al-Maghrib. Durant le mois béni, le quotidien des Tchadiens change et la ville se transforme. Les commerces tournent à fond et les marchés sont bondés. Les jeunes se retrouvent pour passer du bon temps dans les jardins de la ville et au bord des fleuves. Ces sorties, qui sont d'habitude réservées au week-end, ont lieu quasiment tous les jours pendant le ramadan. Ça aide à passer le temps et les journées qui paraissent parfois interminables se terminent très vite. Dès 16h, on voit partout des files interminables se former près des boulangeries. La consommation en pain explose car il en faut absolument pour accompagner la soupe quotidienne qu'est la sacro-sainte chourba. En fin de journée, quand l'heure de rompre le jeûne approche, une certaine agitation règne sur les routes. Il y a des embouteillages monstres, car chacun veut absolument arriver à l'heure à la maison. Les gens sont souvent énervés et chaque année, on assiste à une augmentation des accidents de la circulation. Les soirées sont marquées par des prières de Tarawih. Il y a toujours énormément de monde à la grande mosquée de Djamena. Ensuite, c'est veillée coranique pour certains ou veillée jeu de cartes pour d'autres. Les familles aiment aller se promener en ville. Les sorties nocturnes, sortes de promenades digestives, sont des moments très appréciés. Le soir, les gens déambulent surtout dans les alentours de la place de la Nation. Quant aux jeunes, la plupart passent la nuit à pratiquer des actes d'adoration, d'autres à fumer de la chicha, à jouer aux cartes ou à tapoter sur leur smartphone, car c'est ce qu'ils préfèrent. Comme vous le voyez, le ramadan a toujours été affronté par les tchadiens avec bravoure, malgré les difficultés. Chacun s'occupe comme il peut, en sachant que le mois béni apporte avec lui son lot de consolation, d'amour et de dévotion. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un ramadan moubarak à tous.
Mondoblog.org.
C'était Anadjib Ramadan, mondoblogueur tchadien que je salue et à qui je souhaite un bon mois de Ramadan. À Djamena, on écoute RFI sur le 100.2 FM. C'est la fin de cette émission enregistrée avec Simon Decreuse et réalisée par David Brocoué. Mondoblog Audio était piloté cette semaine encore par Camille Deloche. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en version longue, en podcast, chaque samedi matin, avant même qu'il soit diffusé sur RFI. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou encore l'appli Radio France. Mettez des étoiles au podcast de l'Atelier des médias sur les plateformes que je viens de citer et commentez-le pour qu'il touche un plus large public. Pour me contacter, un message via Twitter ou un mail à l'adresse atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.